La ferme du gypse, cache-cache. Un coup de feu claque, manquant Paul de peu. Elle se baisse, elle voit un homme en noir, il porte un chapeau noir et tient un fusil. Le second coup de feu ne laisse aucun doute à Paul sur les intentions de l'homme. Elle essaie de fuir, elle grimpe le pierrier, s'écorchant les mains et les genoux. L'homme s'arrête pour recharger. Elle monte encore et se trouve prise au piège sous les roches de la baume. Elle cherche du regard une échappatoire quand, sortant de nulle part, une main la grippe et la tire à l'intérieur d'un talis. Accroupie, une jeune femme la regarde, un doigt posé sur la bouche. Elle a un regard vif, une chevelure flamboyante et peut-être une dizaine d'années de plus que Paul. Elle entraîne Paul en grimpant les roches, puis écartant les broussailles. Elle la pousse à l'intérieur d'une cavité dont Paul n'avait même pas soupçonné l'entrée. Rabattant les branches devant l'entrée de la grotte, elle observe l'homme. Elle pose sa main sur la bouche de Paul. Celle-ci comprend qu'elle ne doit pas faire un bruit. Elle retient son souffle, ferme les yeux et essaie de calmer les battements de son cœur dans sa poitrine. Sa vie en dépend ainsi que celle de la jeune femme. L'homme passe tout près d'elle. Il va jusqu'aux cavités des roches, il a perdu sa trace. Il redescend jusqu'au Verneau et prend le chemin du village. La fouine le suit du regard jusqu'à ce qu'il soit trop loin pour les voir. Paul égrène les minutes dans sa tête, elles lui paraissent des heures. La fouine tourne son visage vers Paul et lui sourit, elles sortent doucement de leur refuge. Les deux femmes reviennent sur leurs pas et montent sans bruit sur la gauche, s'éloignant du Verneau. Mille questions brûlent les lèvres de Paul, mais ce n'est pas le moment. Elle suit la fouine dans la pente raide, et après avoir marché plus de 15 minutes à couvert des arbres, la fouine oblique brusquement vers la droite. Paul se demande où elle l'amène, mais pour rien au monde elle ne s'arrêterait. Elle cherchait la fouine, et c'est la fouine qui l'a trouvée, pas question de la lâcher. Elles atteignent bientôt une plateforme rocheuse où Paul découvre une ancienne ruine, vestige d'un temps oublié. Tellement oublié d'ailleurs que plus aucun villageois ne s'en souvient, et à moins d'être une chèvre, personne ne grimperait jusqu'ici. « Où sommes-nous ? » demande Paul. D'un trait, la fouine lui dit. « Je te présente la tour des Mont-Richard. À part nous et les vautours, personne n'y vient, t'es en sécurité. Moi, je la connais, raison que Marie me l'a montrée quand j'étais mouflette. Elle disait qu'il faut pas oublier le passé, parce que c'est dans ces temps-là que les moines cultivaient les plantes, et que les villageois battaient la campagne pour les cueillir. Puis ils ont oublié, maintenant ils prient pour qu'on vienne. » Paul sursauta. « On ? Tu as dit on ?» Sans répondre, la fouine fait volte-face et entre dans la mesure où elle a installé un camp de fortune sommaire mais confortable. Paul entra à son tour et reste figé de stupeur. Devant elle, une femme se tient debout. Marie. Elles se regardent et restent comme aimantées l'une à l'autre sans faire un geste. Et soudain, Marie laisse couler ses larmes. Paul caresse doucement le visage brûlé de Marie et la serre dans ses bras. Elles pleurent longuement dans les bras l'une de l'autre. La fouine s'éclipse doucement, elles ont tant de choses à se dire. Paul et Marie se détachent doucement l'une de l'autre, se tenant toujours par les mains. « Quand tu es belle, dit Marie, approche. » Elle fait asseoir Paul sur un tabouret et prend un onguent qu'elle applique sur la joue griffée de sa fille. Marie ne se lasse pas de la regarder. Elle s'assoit à ses côtés et Paul remarque qu'elle le fait avec une certaine difficulté. Bien que la tour soit à moitié démolie, il en restait assez debout pour que les deux femmes aient pu y installer de quoi vivre, et après ce que Paul avait vu de la ferme du gypse, elle n'était pas vraiment étonnée de la façon dont Marie et la fouine avaient organisé leur vie loin du reste du monde sur la pente abrupte du mont Mahou. Elle surplombait le village, ce qui leur offrait l'avantage de surveiller ses occupants. Mais de quoi pouvait-elle bien vivre ? La fouine réapparut avec un pot à lait dans une main et une poule morte dans l'autre. Paul s'étonna de cette entrée festive et osa questionner la fouine sur la provenance de ce butin. La fouine répondit évasive : « Ben quoi, faut ben qu'on mange, et puis on a une invitée. » Elle se mit à rire doucement en sortant un petit baluchon de son tablier. « Tu rapines ? » dit Paul. Marie lui sourit et lui dit que ce n'était pas toujours comme ça. Elle expliqua à Paul que la fouine allait souvent soigner les familles dans les villages alentours et que parfois, pour les remercier, on lui offrait une miche de pain, quelques œufs, un pot de miel. Les gens du village étaient reconnaissants pour les soins qu'elle leur apportait, et jamais personne n'avait parlé des visites nocturnes de la fouine dans les fermes où le mal frappait. Elle courait les villages, Montmahou, Sainte-Anne, Migette. Elle avait sauvé des vies, aidé à naître des rejetons. Marie était très fière de son élève. Paul soulève le couvercle du pot-à-lait et un doux fumet s'en échappe. « Ça, dit la fouine, c'est Lucie. Elle me laisse le pot plein au bassin de l'archange et moi je lui laisse le vide. Personne n'en a jamais su. Enfin, je soupçonne bien le firmin d'avoir vu son manège. Mais il a fait semblant de rien et puis ça aussi, c'est elle, ajouta-t-elle en dénouant le torchon. Lucie, la femme du taillandier, questionna Paul. « Ouais, répondit la fouine. « Je l'ai rencontrée, c'est elle qui m'a indiqué où habitait Zélie, dit Paul. « Je sais, je beuillais, dit la fouine. » C'était donc ça. L'impression d'être observée constamment, c'était toi. Ben, j'étais pas la seule. Il y avait l'autre aussi, le tout noir. Paul frissonna en repensant à l'homme qui avait essayé de la tuer. « Qui est-il? Que veut-il ? » Paul posa sa main sur celle de Paul et lui dit « Nous allons manger, après nous te raconterons ce que Zélie ne sait pas. » Elles mangèrent la soupe et Paul regarda avec étonnement le drôle de gâteau que lui présentait la fouine. « Qu'est-ce que c'est ? » questionna-t-elle. « Des beignets d'acacia, ça se mange comme ça. » Et elle mit la grappe dans sa bouche pour la retirer par la queue. « Tu aimes ? Vas-y, mange, il y en a beau faire, assura la fouine. » Paul ne se fit pas prier. Elle savourait avec délectation ce premier repas avec sa mère.